France Inter.
Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Semaine spéciale sur France Inter, les retraites, parlons-en, quelle réforme, quelle place pour le travail, quelle société pour demain, et ce matin, comment réussir son changement de vie professionnelle. Depuis quelque temps, vous ressentez un je ne sais quoi, un malaise plus ou moins profond, une lassitude, une perte de sens dans votre travail. Vous vous sentez de moins en moins motivé, vous ressentez une insatisfaction dans vos relations professionnelles, vous ressentez même une boule au ventre sur le trajet. Et puis les gens qui s'épanouissent dans leur boulot commencent à sérieusement vous énerver, sans compter que vous attendez le week-end et les RTT avec impatience. Voici quelques indices qu'il est peut-être temps de changer de métier, d'écouter cette petite voix intérieure pour bifurquer de plus en plus souvent pour un métier manuel lié à l'artisanat. On ne compte plus ces diplômés du supérieur qui deviennent ébénistes, boulangers ou mécaniciens, mais c'est un phénomène qui touche toutes les couches de la société. Ce matin, nos experts vous donnent des conseils pour réussir votre reconversion professionnelle et faire sauter les verrous psychologiques ou matériels qui vous empêchent de le faire. Vous êtes en activité et vous vous posez des questions, vous avez radicalement changé de voie professionnelle, vous êtes à la retraite et vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt, ou au contraire, vous vous êtes épanoui en osant franchir le pas. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter en laissant une note vocale. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode dans
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Mon fils me dit, maman, promets-moi qu'un jour tu vas vivre de ta passion. Arrête de travailler. C'est tellement évident, je me dis, mais bien sûr, si je ne le fais pas tout de suite, je ne le ferai jamais. Donc il faut y aller. Et je demande un entretien avec ma directrice RH. Et je lui dis, Laurence, je vais partir en reconversion professionnelle. D'accord, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben, je veux aller dans les cuisines. Je vais faire un diplôme de cuisine. Allez-y, faites. Allez dans les cuisines. Ouais, j'avais 59 ans.
On vient d'écouter Catherine Cuisinière, c'était dans Brut en 2019. Bonjour Laure Noilla.
Bonjour.
Je suis ravie de vous voir en vrai. Je vous ai souvent interviewé par Reportit au téléphone. Vous êtes ancienne journaliste à Libération, co-réalisatrice du documentaire Après-demain avec Cyril Dion. Et vous publiez chez Tana Édition Bifurqué par temps incertain. Alors bifurqué, nous dit le Robert, c'est abandonner une voie pour en suivre une autre. J'ajoute, si possible, sans se retrouver dans une voie de garage.
Une impasse.
Il est souvent plus confortable de rester sur ses rails habituels, suivre la voie tracée, que de bifurquer et de prendre une autre direction.
Et oui, mais voilà, les temps sont incertains et toutes les boussoles qu'on avait sont en train de vriller un petit peu. Donc les certitudes s'effilochent et dans le temps qui nous reste à vivre, notre vie professionnelle, mais aussi à vivre tout court, qui veut-on être? Que voulons-nous faire? Avec qui? Où? Pourquoi? Et ça, ce sont des questions très 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 présentes depuis évidemment le confinement, mais depuis que, je ne sais pas, des ministres de l'écologie démissionnent en 2018, depuis qu'il y a cette espèce de pression par rapport au futur, que j'aime, cet horizon bouché lié au changement climatique, etc. Donc on a maintenant, et puis une guerre en Ukraine qui fait que tout ce qui était certain s'effiloche, le renchérissement du prix de l'énergie. Donc là maintenant, il y a comme une espèce de besoin impérieux de bien s'aligner et de faire ce qu'on aime le plus tôt possible, le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles.
Et oui, vous avez raison, un virus mondial, une guerre pas encore mondiale, une crise inflationniste nous ont bousculés, nous ont donné des envies de changer de vie. Ces temps incertains ont donné des ailes pour changer de vie, changer de voie, changer d'air pour une nouvelle ère personnelle et professionnelle.
Absolument, beaucoup de personnes ont été galvanisées par le premier confinement, se retrouvant là, un peu les bras ballants, et d'ailleurs aussi à découvrir un peu parfois l'ineptie de certaines tâches pour lesquelles ils étaient rémunérés, et que c'était vachement plus sympa de faire du pain à la maison ou alors d'aller planter des semis de tomates, et de réfléchir, de reprendre la notion du temps long, de déplier un petit peu tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pensait savoir, comment on occupe ses journées, qu'est-ce qu'on met comme activité dans nos journées. La vie passe très vite et effectivement, alors au niveau professionnel, ce qui se passe également, c'est que la question de la limite planétaire devient très très présente, c'est-à-dire comment est-ce que je peux moins nuire, éviter d'advenir. Tout ça, c'est un peu 20e siècle, quoi. Just do it, yes we can. C'est bon, c'est fini. Maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire, à quoi je peux contribuer et dans quel cadre je peux re-rentrer dans les limites planétaires. C'est-à-dire, si je suis directrice de collection dans une grande marque de luxe, c'est quoi le sens de mon travail par rapport à une personne qui a été sur le front pendant le Covid dans le système
de santé.
Les premiers de corvée. Le sens de ce qu'on fait devient très très... Bon, ça, de toute façon, on n'arrête pas d'en parler depuis un an. Mais comment on fait, ça c'est la question.
Et à la fin de votre précédent livre, Comment rester écolo sans finir dépressif, vous nous invitiez donc à nous poser deux questions fondamentales. Vous l'avez dit, qui ai-je envie d'être? Qu'est-ce que je peux faire? Et dans ce nouveau livre, vous ajoutez les interrogations suivantes. Comment le faire? Avec qui? Pour quel projet? Avec quel argent? Où? Pour quelle société?
C'est
bien joli de vouloir changer de vie professionnelle, mais il y a des sacrées questions à clarifier pour ne pas frapper le mur du réel, quoi.
Oh, on peut se tromper, par ailleurs. Ouais.
On a
le droit à l'échec, et même, je dirais, on sait comment est née la tarte tatin. d'une manière générale, c'est vraiment cette histoire. De toute façon, il n'y aura pas d'urgence. Vous pouvez prendre un peu de temps. Il y a une urgence, oui, mais dans le même temps, il est temps de déplier tout son système de valeurs, en réalité. Son rapport, effectivement, à l'argent. Perdre sa vie, à la gagner, ces expressions-là des années 70, etc., sont super impérieuses aujourd'hui. Quels sont mes besoins, quelles sont mes ambitions, quelles sont les valeurs que je...
Falloir apprendre à perdre.
Il va falloir apprendre à perdre ou à mutualiser, à dépenser. Il y a beaucoup de gens qui changent de... Pas que de vie professionnelle, en fait, de mode de vie également. Et ce n'est pas que partir à la campagne, c'est aussi peut-être mutualiser ses moyens au moment de sa retraite. Se dire, mais pourquoi est-ce que je resterai tout seul dans ma maison en attendant que les petits-enfants passent? Pourquoi est-ce que je n'irai pas avec plusieurs personnes acquérir un domaine, faire pousser des légumes, œuvrer pour le territoire qui nous accueille essayer, vraiment j'insiste sur la question de ne pas devenir et de ne pas nuire dans l'environnement, d'essayer d'aggrader l'environnement dans lequel on arrive plutôt que de le dégrader, d'avoir des activités qui ont un sens pour l'intérêt général.
Quoi qu'il en soit, il va falloir bien penser aux conséquences de son désir de bifurquer, car il y aura forcément des secousses dans sa vie intime, familiale, sociale.
Ah oui,
économique.
Oui, évidemment. Alors il y a parfois beaucoup de pertes de revenus, beaucoup de pertes de référents, de valeurs. Quand je parle de mutualisation, la vie en collectif ou en communauté, c'est quelque chose de très heurtant. Ça peut venir questionner qui vous êtes, comment vous fonctionnez en mode critique ou pas critique d'ailleurs. Mais c'est vrai que tous les possibles sont ouverts. C'est ça qui est assez vertigineux. Donc, sur ce qu'il y a à faire, il y a des formats. Enfin, on en parlera, j'imagine, on va déplier un peu tout ça.
Bonjour Philippe Gabillier.
Bonjour.
Professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School de Paris. Vous avez notamment publié aux éditions Saint-Simon L'art de changer de vie en 5 leçons. Ça peut ficher une sacrée trouille de bifurquer, de changer de vie professionnelle. Il va falloir faire sauter tout un tas de verrous psychologiques pour se mettre en mouvement, pour se mettre en action.
Oui, et puis il y a surtout les verrous, et en plus ils sont partout, c'est-à-dire qu'il y a des verrous et des blocages dedans et dehors. On pourrait dire, je ne sais plus reprendre cette vieille expression, mais dire que dans le fond, la porte du changement de vie, elle s'ouvre quand même de l'intérieur, quoi. Donc on se rend bien compte qu'il y a des changements de vie qui partent sur des mauvaises bases, c'est quand on part uniquement par refus de quelque chose. C'est un point de départ, la lassitude, le sentiment d'inutilité, la routine, etc. etc. Je veux quitter ça, bon. Mais le problème, c'est que je veux quitter ça, ça creuse un trou quelque part, mais ça bâtit rien, quoi. Donc tout le problème pour beaucoup de gens va être de dire, c'est quoi dans ce cas mon rêve alternatif? Qu'est-ce que ça va être? Et ce rêve alternatif, est-ce que ce n'est que le mien? Il va peut-être falloir que je le partage avec des gens, parce qu'encore une fois, tu parlais du mur du réel. Le mur du réel, c'est les autres, quoi. C'est moi, voilà, je prends cet exemple-là parce que je l'ai en tête. C'était quelqu'un moi avec qui j'ai travaillé. Je suis directeur informatique d'un très grand groupe, etc. Et tout d'un coup, j'en ai ras-le-bol, burn-out, etc. Je veux devenir boucher. Le problème, c'est que ça a changé plein de choses au niveau familial, etc. Et l'épouse, je dirais, du cadre sup en question, femme d'ailleurs par ailleurs tough et charmante, très ouverte, etc., finit par lui dire, écoute, bon, ok, boucher, d'accord, mais s'il te plaît, on reste autour de Versailles parce que toute notre vie est là, les gosses sont là, ma famille est là. Voilà, donc on est aussi, on a aussi des engagements concurrents en fait dans nos vies. Mais cela, il est vrai aussi qu'il y a cet aspect de contamination, c'est-à-dire que dans le fond, un vrai changement de vie, quand on regarde bien, il faudrait cocher plein de cases. On pourrait presque dire, si quelqu'un qui vous dit, je veux vraiment changer de vie complètement, dire bon alors dans ce cas, il faut changer d'activité, c'est pas mal. En même temps, d'endroit. Alors. On ne peut pas vous conseiller de changer les gens avec qui vous êtes aujourd'hui, parce que ça ne serait pas très cool en tant que tel, mais ça peut se comprendre. Il va falloir aussi changer ce qui se passe là-dedans, hein, au niveau des priorités, au niveau des rythmes de vie. Et on se rend compte que plus, en fait, on va matcher, coller sur plusieurs niveaux de changement, plus ce changement de vie a une bonne chance de devenir un changement, pour le coup, durable. À la fois durable et soutenable, harmonieux. C'est-à-dire que si le prix à payer pour mon changement de vie, alors après c'est un choix personnel, hein, il y en a qui n'ont pas de problème avec ça, moi en tant que psy, je peux te dire que mon changement de vie va rendre des gens malheureux, mais c'est eux ou moi. Bon, écoute, tu sais, moi je ne suis pas dans le jugement, par définition, ça serait je ferais un autre métier. D'accord, mais il faut juste être conscient du truc, c'est-à-dire que jusqu'où je suis prêt à mettre les autres en zone d'inconfort pour moi pouvoir retrouver une vie créative, etc.
Laure Noyla.
Changement de vie égale survie, parfois, pour certains. Tant pis. Tant pis. Et puis, de toute façon, c'est une aventure, hein, surtout dans cette époque. Et je considère que ces personnes sont pas mal des pionniers, des aventuriers. Donc, il y a une boussole, déjà. Mais il n'y a pas forcément de méthodologie. Et pour changer d'activité, on peut méthodiquement regarder où est-ce qu'il y aura besoin d'agriculteurs, de nouveaux métiers qui n'existent pas encore, d'ailleurs. Bah, place à la créativité. Vu que tout est foutu, aujourd'hui, d'une certaine façon, il y a
presque
un mur.
Foutu.
Non, mais bien sûr. Mais il y a quand même tout un monde de valeurs qui s'effondre. Et comme beaucoup de choses s'effondrent, autant faire place à toute l'inventivité dont on est capable.
Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et essayiste. Vous avez connu un immense succès critique et éditorial avec votre livre « La France sous nos yeux » coécrit avec Jérôme Fourquet. Et vous avez également publié « La révolte des premiers de la classe, changer sa vie, la dernière utopie » dans une nouvelle édition publiée chez Arquet. Alors c'était un essai prémonitoire. Entre la parution de votre essai en 2017 et aujourd'hui, les diverses crises qui secouent nos sociétés ont confirmé vos intuitions. Le désir du changement de vie n'a fait que s'amplifier et touche toutes les couches de la société, pas simplement les premiers de la classe, les surdiplômés, le cadre sup qui veut devenir boucher, ça touche quasiment toutes les couches de la société.
Oui, c'est exactement ça. Moi, je me suis dit avec l'éditeur qu'on devait republier ce livre et l'augmenter, retravailler sur le sujet, parce que en 10 ans, parce que j'avais commencé l'enquête au début des années 2010, la reconversion professionnelle, c'était un peu un truc de privilégié. C'était élitiste, c'était j'ai fait une école de commerce, j'ai un bon job à la Défense, mais j'ai une sorte de vague à l'âme, d'open space, je m'ennuie, je lâche tout et je deviens microbrasseur, j'ouvre un food truck, etc. Bon, je prends des exemples un peu archétypaux, un peu excessifs, spectaculaires, mais ils existent. Et ils ne sont pas forcément représentatifs de toute la population des diplômés, encore moins de la population des travailleurs. Et donc on pouvait dire c'est très intéressant, mais ça reste cantonné à une marge statistique. Et puis ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi l'apparition de ce livre, de cette enquête, et puis le retour des sujets liés au travail avec d'abord le Covid, puis la contestation de la réforme des retraites, parce que le sujet des retraites aujourd'hui, derrière, il y a le sujet des conditions de travail. Dans un monde professionnel qui est de plus en plus difficile pour les salariés, y compris les premières lignes, les premiers de corvée, les gens qui sont dans le service à la personne, les gens qui sont confrontés à du public, qui absorbe quelque part toute la charge mentale d'une société épuisée et pressurisé. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une massification de la question de la quête de sens. C'est plus un petit truc de bourgeois, en gros, c'est vraiment ce qui touche toute la société française, et pas seulement les amphis de promo d'école de commerce ou d'ingénieur, même si c'est vrai que ce sont les diplômés qui étaient à la manœuvre sur ces bifurcations. D'ailleurs, c'est intéressant en termes sémantiques de voir qu'on est passé des sujets de reconversion il y a quelques années au sujet de bifurcation. Laure, elle parle de bifurquer, et c'est vrai que quand on dit bifurquer, vous disiez Ali, vous parliez d'aiguillage, de rail, on voit bien qu'il y a une question de chemin à prendre et qu'il y a un aspect plus existentiel. Là, on ne parle pas juste de reconfigurer son rapport au travail, on parle de se poser la question de sa famille, du lieu de vie, du fameux exode urbain dont on pourra reparler. Et je pense que, pour parler avec un jargon un peu entrepreneurial, les gens se sont mis pendant le Covid et après à faire une sorte d'audit de leur vie. Parce qu'ils ont eu le temps de se poser, de prendre un peu de perspective et de recul. Et c'est comme s'ils avaient, ils s'étaient dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas changer une des coordonnées de ma vie? Ça peut être, ça a été dit, le lieu de vie, le cadre, le travail, etc. Voilà.
Laure Noyla.
Oui, bah...
Vous acquiescez à tout ce qu'il dit.
Non, mais j'aime jamais tout ce qu'il dit, c'est tout à fait ça, c'est brillant. C'est vrai qu'il y a eu une massification et que tout cet univers du bio-bioland, où effectivement tout ce qui nous occupe, c'est de rester dans les limites planétaires, d'essayer d'agrader nos environnements, de faire vivre nos territoires, de réinjecter de l'entraide, de la reliance, d'essayer de trouver des questions d'autonomie, parce que la question de l'autonomie, en fait, quand on va changer de vie, on peut avoir une perte de revenus substantielle, ça c'est clair, net et précis. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une perte de revenus? Bah, on peut baisser ses besoins, typiquement. Et donc il y a un mot-clé dans ceux qui vont vers les questions de bifurcation, c'est l'autonomie. Mmh. Et l'autonomie, bon, de penser, on se désincarcère un peu d'un système qui est un peu mortifère et qui nous écrase un peu. Mais par ailleurs, on va aussi essayer de revenir en autonomie alimentaire, en autonomie de faire ensemble, de se réapproprier ses mains, parce que beaucoup de gens qui bifurquent viennent du monde du tertiaire, or c'est bien d'aligner sa tête, son cœur et ses mains. Et qu'est-ce qu'on sait faire quand on arrive quelque part dans une maison qu'on veut retaper, etc. On découvre qu'on ne sait rien faire. Mmh. Où est-ce qu'on apprend ça? Nulle part. Où sont les endroits de formation, à part les CAP, etc. Où je peux apprendre à, je sais pas, retaper ma toiture, un peu de menuiserie. je sais pas, c'est des choses très bêtes, mais qui nous redonnent le sens de notre corps et du faire, point final.
Philippe Gabillier.
Oui, ben en tout cas, ce qui est fascinant pour les sociologues, c'est de voir que cette problématique là, de changement de vie, etc., tu vois, dans les années 80, moi, quand j'ai démarré, c'était clairement un truc de milieu de vie. On a parlé d'ailleurs de la crise du milieu de vie, en gros, ça peut 35-40 jusqu'à 50-55. Or, c'est devenu transgénérationnel. D'abord, on a, nous, ce qu'on a dans les écoles, ingénieurs, commerce, etc., on est confronté dans le suivi des étudiants à ce qu'on appelle les bifurcations professionnelles précoces. Donc,
hier, par exemple, Philippe Gabillier, nous avions à l'antenne une ancienne étudiante en école de commerce qui est devenue ébéniste.
Oui, tout à
fait.
Elle
avait, je sais pas, 24 ou 25 ans.
Moi, j'en ai une qui est devenue charpentière. Enfin, mais voilà, donc ça, il y a ça. Et puis, il y a effectivement ceux qui, avec ce qui se passe maintenant, avec l'histoire des retraites, il y a des gens, il y a un gars qui m'a dit l'autre jour, il m'a dit, tu sais, dans le fond, moi, je vais être à la retraite, je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est qu'à partir de maintenant, je vais être payé jusqu'à la fin de mes jours pour me former. Ah, j'ai trouvé ça assez sympa. Parce qu'effectivement, dans retraite, on dit toujours, dans une retraite bien équilibrée, il y a deux mots-clés dedans. Il y a retrait, il y a retraitement. Retrait, il y a des choses que je dois délibérément, c'est sain, arrêter de faire. J'arrête de vivre comme ça. Retraitement, avec tout ce que j'ai acquis, même du déchet, je vais vivre en mode compost pendant des années et des années, avec ce que j'ai, je vais devenir une autre femme ou un autre homme.
C'est pas mal ça, la vie en mode compost. Jean-Laurent Casselli, en tout cas, vous regrettez que le thème de la reconversion professionnelle soit devenu un marronnier journalistique? Vous regrettez ces récits enchanteurs du bonheur dans la reconversion? Parce que, et je vous cite, partout s'affiche une iconographie du reconverti modèle, trentenaire, dynamique, prenant la pose en bleu de travail ou tablier haut de gamme dans son atelier ou devant des étagères en bois sur lesquelles s'entassent des sachets de café en papier Kraft dans une boutique minimaliste au mur décapé quand il ne prend pas l'apparence d'un néo-rural affublé d'un bonnet de laine, d'un pull à grosse maille et de bottes aigle devant sa chaumière. C'est vrai que c'est un peu agaçant.
Oui, alors je suis un peu jugé parti là-dedans, parce que c'est vrai qu'on a les journalistes qui travaillent sur le sujet, on a collectivement contribué à installer aussi cet idéal professionnel, même si je ne pense pas que les médias créent de toutes pièces ces aspirations. On les entraîne et peut-être qu'on les accompagne. Mais souvent, depuis que je travaille sur le sujet, j'ai compris par expérience qu'on continue à en faire. C'est le principe du marronnier, parce qu'à chaque fois, ça marche. Voilà, c'est comme le sujet du bac. On sait que les gens les lisent. Et pourquoi les gens les lisent? Parce qu'eux sont coincés dans leur bureau, dans leur travail, et qu'ils se projettent quelque part dans ces belles histoires de reconversion.
Et nous accueillons...
Il n'y a pas que ça.
Oui, Laure Noyla.
Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnes qui quittent leur pavillon, qui sont menuisiers dans une usine de cercueils et qui décident de monter leur tiny house, de vivre dans les champs toute la journée, et ils ne sont pas là pour prendre la pause devant les photographes et les journalistes que nous sommes. Ils bossent.
Et nous recevons au téléphone Antoine. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans la conversation. Alors, racontez-nous un peu votre changement de vie, Antoine.
Alors moi, j'ai changé de métier il y a 3 ans. En fait, je travaillais dans une start-up qui faisait du conseil auprès de grandes entreprises, du conseil en innovation. Et en fait, j'avais aucune idée. En fait, j'avais des problématiques de sens dans mon quotidien, on va dire. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment mener ce chemin introspectif sur ce qui m'animait professionnellement. Et en fait, j'en suis venu à faire une série documentaire, donc de la réalisation de films, sur le thème de la transition professionnelle radicale. Donc en fait, je faisais des portraits de personnes qui ont changé radicalement de métier. Donc un peu sur le type de profil que vous mentionniez précédemment.
Et ça s'appelle les Mavericks ?
Ouais, alors ça s'appelle les Mavericks. En fait, les Mavericks, c'est issu d'un livre que je lisais sur la route pendant que je faisais cette première saison. Et en fait, ça définit un peu ce cheval sauvage qui décide de se mettre un tout petit peu à l'écart du troupeau. Ça n'en fait pas un marginal. Hein. Il suit les codes de la société, mais en fait, il décide de tracer sa propre route. Et donc, en fait, je trouvais cette image assez intéressante aussi pour parler justement de ces personnages qui, en fait, trouvaient plus d'équilibre dans leur quotidien professionnel et qui ont décidé de se construire le leur.
Quel est le point commun de toutes ces personnes que vous avez rencontrées pour vos documentaires ?
Alors, pour rebondir sur ce que disait un de vos intervenants un peu plus tôt, on va dire que le point commun, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille, en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont tous comme point commun de s'être, entre guillemets, acharnés au travail. Il y a un rapport au travail qui est complètement en fait, déséquilibré par rapport à ce qu'ils faisaient avant, ça, c'est clair et net. Après, voilà, on va dire qu'ils sont beaucoup plus enclins à s'investir professionnellement parce que justement il y a cette notion de cohérence avec leurs aspirations professionnelles.
Jean-Laurent Casly, on assiste, et vous l'écrivez dans votre livre, à une progressive inversion des hiérarchies professionnelles. C'est-à-dire que devenir microbrasseur, néo-épicier, boulanger bio, mécanicien de vieille moto, bah c'est devenu beaucoup plus glamour que cadre dans une banque à la Défense. Hein.
Oui, alors c'est vraiment l'expression, c'est plus glamour, ça paraît plus attractif. D'ailleurs, c'est aussi le sujet de nombreuses discussions quand les jeunes étudiants de l'école AgroParisTech l'année dernière ont fait un discours assez fracassant lors de leur remise de diplôme sur justement les bifurcations qu'ils pensaient entreprendre avant même commencer à travailler dans une grande entreprise. Hein, ce que vous disiez, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques années, on parlait encore de bifurcation de milieu de carrière. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne parle plus de reconversion, parce que les gens ne passent plus, même plus vers le, entre guillemets, bullshit job, métier
bullshit
à la
job,
con.
Bullshit job, c'est les boulots à la con, dénués de sens, très bien raconté par l'anthropologue britannique David Graeber.
Voilà, qui a inventé ce terme. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est dans un... pardon, j'ai perdu le fil.
Mais sur l'inversion des hiérarchies professionnelles.
Oui, exactement. C'est vrai que c'est devenu beaucoup plus glamour d'entamer sa reconversion. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le risque, c'est de faire peser sur tous les autres, oui, en fait, une sorte de pression sociale. C'est-à-dire, finalement, si tu n'as pas fait ta reconversion, ta bifurcation, t'as raté ta vie... et c'est vrai qu'il faut pas oublier tous ceux qui restent et qui vont changer certaines coordonnées de leur vie, pas tout. Et voilà, et je pense qu'il faut aussi ne pas les mettre dans l'ombre et aussi peut-être aller au-delà du métier passion comme finalité. Mais on aura l'occasion d'y revenir.
Philippe Gabillier ?
Oui, et surtout cette espèce d'injonction à l'authenticité, sois vraiment, laisse exprimer ton moi profond, etc. Ça explique aussi pourquoi est-ce que s'est développé tout ce marché de la méthodologie, du changement de vie, phase 1, phase 2, phase 3, phase 12, alors qu'en fait, dans la vraie réalité, on se rend compte que la caractéristique de la quasi-totalité des gens qui changent vraiment de vie, c'est qu'ils n'étaient pas prêts, quoi. Et ceux qui attendent d'être prêts, ils changeront jamais rien. On est dans cette espèce de bricolage. À un moment donné, il y a des gens qui vous disent, voilà, dans le fond, j'ai pris une décision, j'ai peut-être eu tort, mais j'ai pris cette décision, et à partir de maintenant, je vais tout faire pour que ce soit une bonne décision.
En tout cas, il faut écouter sa petite voix intérieure, Lornois, là. Je ne peux plus continuer comme ça, doit pousser à agir.
Ah ben, je dirais même, c'est l'endroit de la fêlure. On parlait d'un avant où il y aurait eu des crises de milieu de vie. C'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés, les vingtenaires, les trentenaires font leur crise, leur midlife crisis maintenant. Parce que ils voient bien que quelque chose est bouché et quelque chose, des promesses qui ont été faites, des rails sur lesquels on les a mis, ne fonctionnent plus. Donc entendre ça, l'écouter, se mettre à plusieurs pour essayer de bifurquer, de braquer un peu le volant de sa vie, c'est fondamental. Je crois que c'est même la seule boussole qui vaille. C'est pas de se faire virer ou de se faire larguer. C'est est-ce que moi je me sens bien ? Est-ce que moi je me sens bien ? Où je suis ?
Antoine, restez avec nous, hein, continuez à participer à notre conversation. Vous pouvez également appeler au 01 45 24 7000. Comment réussir son changement de vie professionnelle? On continue à partager des conseils avec nos invités et on en parle juste après avoir écouté Vanessa Paradis. Pourtant, un titre sorti en 2000, 10h30 sur France Inter. Vanessa Paradis interprétée pourtant.
Potasse l'anglais, j'apprends la photographie.
Grand bien vous fasse.
Ça commence à sentir mauvais pour moi ici. Il y a des signes qui ne trompent pas.
Elle est rébéie.
Je veux changer d'air.
Non, pour être photographe, même ambulant, il faut une licence. Pour l'obtenir, pour un tutelle de bonheur.
Sur France Inter.
Semaine spéciale sur France Inter. Les retraites, parlons-en. Quelle réforme? Quelle place pour le travail? Quelle société pour demain? Et ce matin, comment réussir son changement de vie professionnelle avec les essayistes Laure Noyla et Jean-Laurent Casly et le professeur de psychologie et de marketing Philippe Gabillier. Alors Laure Noyla, je rappelle que vous êtes l'autrice de Bifurquer par temps incertain. Ce qui peut pousser à bifurquer, c'est de non pas fêter ces années écoulées, mais nos heures d'existence restante, de réfléchir en profondeur au temps qu'il nous reste. Ouais. Alors, c'est pas forcément joyeux, mais ça peut, comme vous nous le disiez hors antenne, mettre un coup de pied aux fesses.
De toute façon, dans la vie professionnelle, on sait qu'on a à peu près 80 000 heures. Donc, comment j'emploie ces 80 000 heures. Est-ce que ça va être quelque chose qui me plaît, qui m'emmerde, qui fait juste payer les factures, le loyer? Ou est-ce qu'à un moment donné, je mets tout mon potentiel, toutes mes capacités, tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis, au service de quelque chose qui me plaît véritablement? Et attention, c'est pas forcément l'histoire du coaching, du bien-être intérieur, du développement personnel, etc. Je pense qu'une société composée de plein de cellules où tout le monde va bien, c'est plutôt une société qui peut envisager des choses un peu plus joyeusement. Et donc, moi, de toute façon, j'ai beaucoup, enfin, sur le Tour de France que j'ai fait, parce que c'est un petit peu un road trip se bifurquer par temps incertain, je suis allée à la rencontre de personnes qui ont été galvanisées et mises en mouvement par le confinement. Typiquement, une crise extérieure, pas forcément intime et personnelle, peut être le déclencheur parfait. Regardez, on est en train de faire ces émissions parce qu'il y a eu mars 2020. Ouais. On parle de sens au travail parce qu'il y a eu ce confinement qui nous a cloués au sol. Ça fait partie des déclencheurs.
Et pour vous, Laure Noyla, il est important de se poser les questions suivantes quand on travaille. Suis-je à ma place? Ai-je envie de continuer ainsi? Et est-ce que je fais ce qui me plaît?
Ben oui.
Et on ne se les pose pas suffisamment, ces questions, peut-être?
Et je crois que certaines personnes savent très bien qu'elles sont coincées aussi dans des couloirs. J'imagine qu'on se les pose maintenant, depuis 2-3 ans, tous les jours à peu près.
Et quoi qu'il en soit, quel que soit son âge, il est important de découvrir le sens à donner à sa vie. Alors c'est s'occuper d'Anne Malade pour Lise dans votre livre. Pour Eric, c'est lire, apprendre des trucs tous les jours. Pour Sybille, cuisiner, faire plaisir, rendre heureux.
Alors peut-être que tout ça n'est pas monétisable sur le marché du travail en tant que tel. Néanmoins, encore une fois, je le redis, on rentre dans un univers, dans un monde tellement fait d'inconnus qu'on ne sait pas ce qui peut être un métier de demain. Vous trouvez sur Internet des listes de métiers à inventer qui sont d'une créativité folle. Est-ce qu'il y a encore la correspondance besoin-demande sur un marché du travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui? Je ne sais pas. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'on est en France le sponsor officieux de la bifurcation, c'est quand même Pôle emploi, que je redéfinis comme étant pôle déploiement, parce que beaucoup de personnes ont contribué, ont travaillé. Maintenant, elles ont droit d'avoir le chômage pendant 1 ou 2 ans, et elles vont prendre ce temps-là comme une espèce de pension, de réflexion, de remise à plat de leur vie. Et tant pis pour les grincheux qui vont considérer que c'est un peu travailler sur le dos de la bête. Même Macron l'a senti cet été, le 14 juillet 2022, quand il a fait ses vœux aux Français. Discours du 14 juillet, il dit « Bon, la solidarité nationale n'est pas là pour ça, quand même. » Mais en fait, je me demande si elle n'est pas là pour ça aussi, parce que derrière, vous allez peut-être voir des hordes de personnes bien dans leur peau qui vont contribuer au territoire, aux questions de planète, d'environnement, d'écologie et d'entraide et de lien social. Donc,
et vous citez justement dans votre livre le psychiatre Viktor Frankl, qui a écrit « Donner un sens à sa vie » et qui écrit que seule la non-réalisation d'un potentiel n'a pas de sens.
C'est ça. Et en plus, c'est le stoïcisme de la responsabilité. Parce qu'en plus, on est dans une époque, c'est pas bifurquer pour bifurquer aujourd'hui, c'est bifurquer dans des temps incertains. J'insiste parce que il y a quelque chose de ces rivets, de la carlingue sociétale dans laquelle on est embarqué, qui sautent les uns après les autres. On ne sait pas quel rivet va vraiment être déterminant pour un possible effondrement de nos sociétés complexes. C'est important de remettre du sens et d'avoir une responsabilité vis-à-vis de ça. Frankl parle aussi du stoïcisme de la responsabilité. Dès lors qu'on s'engage et qu'on est responsable vis-à-vis du monde qui nous entoure, alors, voilà. Le boucher, par exemple, on peut se questionner sur le sens d'être boucher aujourd'hui dans un monde où on sait que la viande,
C'est là où je dis qu'à un moment donné, en revanche, je pense très sincèrement qu'il y a des moments où il faut s'abstenir de juger. Le gars, il voulait être boucher, ça renvoie à de la vie. Je veux dire, il avait été élevé par son grand-père qu'il était. Il aimait travailler cette matière qu'est la viande. Je comprends que ça fasse hurler les véganes, les végétariens. Mais bon, c'était son truc. Après, pour lui, en tout cas, c'était très, 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 très porteur de sens. Et voilà. Donc, après, pour le reste... après, tout fait sens. On raconte, je sais pas si c'est authentique, mais on raconte qu'Albert Einstein disait que la seule chose qui le détendait vraiment, c'était d'aller couper du bois en forêt, parce que là, au moins, il voyait vraiment le résultat de ce qu'il faisait.
Philippe Gabillier, comment faire sauter les verrous de la peur? Comment se mettre réellement en mouvement?
Disons que effectivement, ce qu'on va appeler la temporisation, attendre d'être prêt, c'est un mécanisme qui se nourrit de défiance. et de défiance et de doute. Donc ça se nourrit de défiance d'abord, défiance souvent par rapport à soi-même, défiance par rapport à autour de soi, que vont penser les autres, est-ce qu'ils vont accepter, etc. Et de doute sur mais est-ce que j'y arriverai. Et cette espèce de mécanique-là crée un espace mental, je dirais, qu'on pourrait qualifier de protection, avec ce fameux « j'attends, je vais y aller, hein, c'est sûr, mais j'y pense, là, c'est en train de se mettre en place ». On pourrait presque dire que quelqu'un qui veut changer de vie devrait quand même se poser deux, trois questions qui vont, on va dire, mettre au défi cette procrastination. D'abord, bon, tu veux changer ta vie, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui ne changeront pas, voilà, que tu veux quand même garder avec toi. Dans ton changement de vie, est-ce que tu as des alliés? Ah, si tu n'en as pas du tout, bon, essaie d'en trouver. Devant qui que tu aimes beaucoup ou à l'admiration de qui tu tiens, tu pourrais t'engager à changer en disant « si tu ne me vois pas changer à telle date, tu as le droit de me bâcher, comme me pourrir tout ce que tu veux ». Il y a vraiment tout un tas de stratégies, parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui dit « ah oui, si j'avais voulu, j'aurais pu changer », on sait pertinemment qu'à un moment ou à un autre, si ça n'est pas le cas, peut-être aussi que le problème n'a pas été réglé, c'est-à-dire en fait je ne voulais changer que contre quelque chose et j'ai jamais été fichu de trouver le pour.
Antoine, je rappelle que vous étiez responsable marketing et désormais vous réalisez des documentaires sur des personnes qui sont en reconversion professionnelle radicale.
Oui, ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est très intéressant hein, tout ce qui est dit là et ça reprend beaucoup d'éléments que moi je mets en lumière dans ces documentaires. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, je dirais que oui, c'est un des leviers qui va pousser vraiment à l'action et qui va être une sorte de garantie qu'on va enclencher ce changement, hein, c'est vraiment cette idée de contrat social, en fait. C'est le fait d'en parler. On retrouve cette notion aussi dans l'entrepreneuriat. L'idée, c'est d'en parler le plus possible autour de nous, et plus spécifiquement à des personnes qui comptent pour nous, dont le jugement compte pour nous, pour être sûr qu'en fait, par peur de les décevoir, on va se mettre ce petit coup de pouce au quotidien pour vraiment aller mettre en place le projet, quoi. Donc, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Hein.
Merci beaucoup, Antoine, d'être intervenu ce matin. Alors, Jean-Laurent Casly, je rappelle que vous êtes l'auteur de La révolte des premiers de la classe. Il faut bien se rendre compte de la réalité du métier que l'on envisage, un métier passion, bien souvent. Il peut exister un décalage entre ce métier rêvé et la réalité. Vous évoquez dans votre livre la responsable pédagogique de l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, qui propose donc des formations de reconversion en boulangerie et pâtisserie aux adultes, et elle dépeint un tableau assez éloigné des réussites montrées dans certains reportages ou dans certaines émissions, et elle n'hésite pas à décourager ceux qui veulent s'inscrire en CAP, les adultes qui veulent s'inscrire en CAP. C'est quand même assez étonnant.
Oui, et encore, ce témoignage date de quelques années déjà. Je pense que la compétition dans la boulangerie s'est radicalisée entre-temps. Je voulais revenir sur les questions d'argent, parce que Laure a dit à raison que Pôle emploi est le sponsor officieux, ça je le confirme, de la reconversion professionnelle. Il y a un dispositif qui s'appelle la rupture conventionnelle, qui permet à énormément de salariés, notamment de cadres, de tester leur activité pendant un an, pendant deux ans. Et vous savez, après le Covid, on a beaucoup parlé des entreprises zombies qui étaient maintenues sous perfusion par l'argent du quoi qu'il en coûte. Bon, il y a aussi pas mal de reconversions zombies qui sont, si vous voulez, entretenues par l'argent du conjoint qui a gardé un boulot très stable dans une grande boîte, l'argent de Pôle emploi, et une fois que vous retirez tout ou partie de ces subsides, vous vous rendez compte que, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'un énième coaching, c'est intéressant parce que la reconversion a créé son propre marché d'ailleurs de services associés, est-ce qu'un énième service de coaching ou est-ce qu'un énième restaurant de focaccia est vraiment utile à la société, ou est-ce que, alors Laure parlait, je suis d'accord avec elle, des services qui ne sont pas forcément monétisables sur un marché, et c'est vrai que parfois l'offre crée sa propre demande. C'est vrai dans le commerce, c'est vrai dans les services numériques. Mais je pense aussi qu'il faut éviter... Alors, il y a un livre récent qui s'appelle justement Le piège du métier passion qui parle très bien de ça. Je pense qu'il faut éviter cette idée qu'on va juste se faire plaisir dans sa reconversion. S'épanouir, ça, c'est une chose. C'est hyper important. Mais s'épanouir, ça passe aussi par rendre service au reste du corps social. Voilà, pas être juste dans son petit délire parce que sinon, en fait, on va dans le mur, quoi.
C'est-à-dire, aimer faire du pain à la maison, c'est très bien, mais il faut également se rendre compte de la réalité du métier de boulanger qui doit sortir 200 tartelettes, n'importe quoi. Mais
Vous nous avez dit, Ali, que c'était votre passion, le vin, mais vous êtes probablement meilleur animateur radio que boulanger, donc dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux que ça reste
pas
que la boulangerie.
Pain, mon cher, Jean-Laurent Casly. Laure Mola.
Au Moulin Bleu, où je suis passée, il y a une jeune femme qui était diplômée en biologie, vie et qui s'essayait au CAP de Boulanges. D'abord, elle régalait, avant ses épreuves, toute la communauté de 19-20 personnes. C'est pas rien, c'est quelqu'un qui contribue donc à sa communauté. Mmh. Et derrière, elle, son invention, c'était d'être une boulangère itinérante sur les marchés avec son four en autonomie. Alors là, vous n'avez plus le boulanger qui va étaler 10 000 tartelettes au citron. Vous avez quelqu'un qui arrive dans un territoire de la diagonale du vide où le boulanger n'est plus exactement là au bon endroit et qui va s'insérer un petit peu dans les interstices, dans le vide qui est laissé. Donc il y a toute cette possibilité. Un boulanger n'est pas obligé d'être dans son four, dans son truc. Il peut, et voilà, ça peut, tout peut changer, tout peut se renverser. Et dans l'univers de la transition environnementale et écologique, cette histoire de réinvestir des territoires et de réapporter des services qui avaient disparu avec une jeunesse qui bientôt fera des enfants, remplira les classes d'école, etc. etc. Vous voyez où je veux en venir. C'est un monde un peu paradisiaque parfois.
Alors quelles sont les pistes quand on souhaite se reconvertir? Alors, il existe les AFPA.
Alors il y a très peu de pistes pour les adultes.
Ah oui, alors il y a quand même des CAP, des brevets professionnels de responsables d'établissements agricoles. C'est un diplôme très recherché par les personnes en reconversion. C'est 10 mois, c'est ça, de formation à temps plein.
Le PEREA, je crois que c'est le diplôme phare de la reconversion, de la bifurcation actuellement. Alors il y a un institut dont j'aimerais parler, c'est l'institut de Tramail. Parce qu'on a beaucoup de jeunes, donc effectivement, qui à 25 ans, ou ne terminent pas leurs études, ou n'ont pas envie d'aller contribuer au système. Donc, ils ont envie de se former à autre chose. Et l'Institut de Tramail va faire sa rentrée en septembre 2023. C'est pour des jeunes qui veulent à la fois être nourris au niveau de l'esprit. Donc, il y a des cours en sciences politiques, etc. Ne pas être complètement à côté de la plaque en termes de ce qui se passe dans le monde. Et puis, qui vont apprendre la plomberie, la ferronnerie, enfin le travail de l'acier, du fer, du bois. Voilà, donc, se former à la fois à sa tête et à ses deux mains, c'est quelque chose d'assez rare et de très prisé.
En tout cas, quand on se forme à un nouveau métier, on doit se poser une série de questions. Quel est l'objectif de la formation? Combien de temps y consacrer? Comment la financer? Suis-je prêt ou prête à déménager pour suivre une formation? Ça, c'est très important de se poser ces questions.
Encore une fois, oui. Et de toute façon, dans tous les chapitres d'une bifurcation, c'est une somme de questions où on n'aura pas forcément les réponses en temps réel. Les questions de formation sont fondamentales. Oui, est-ce qu'on va se former à faire son ikigai ou est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on va faire un BPREA? Mais BPREA, après, derrière, vous vous rendez compte que maraîcher, c'est quand en moyenne 600-700 euros par mois. Est-ce que je suis capable d'embarquer toute ma famille là-dedans? Est-ce que j'ai envie d'être dans le froid? Est-ce que je peux réutiliser mon corps comme avant parce que je viens de faire un diplôme d'ingénieur en process industriel? Et là, je me retrouve, il est 7 heures du mat, je ramasse des patates, il fait froid, j'ai les doigts gourds. Voilà. Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce que tout ça pour à la fin aller dans une AMAP et gagner 3 francs 6 sous? C'est véritablement des questions et c'est là où en fait finalement la bifurcation n'est pas juste un désir de s'accomplir soi-même mais aussi d'œuvrer pour un monde qu'on aimerait voir advenir en fait.
Tiens, notre jeune collaborateur Léo Mafiodo a eu envie de mettre son grain de sel dans notre conversation.
Bonjour Ali. Alors moi j'ai 24 ans depuis bientôt 2 mois. Et les jours passent et me rapproche encore un peu plus de cette fameuse crise des 25 ans dont on parlait. Alors crise de sens, crise professionnelle, crise existentielle, nombreuses sont les expressions qui évoquent ce qui m'attend. Cela fait néanmoins quelques années que je pratique régulièrement le spleen hebdomadaire. Alors cela consiste à briser de temps à autre mes divers espoirs professionnels et existentiels. Afin de calmer au mieux mes ardeurs, il me suffit de penser dans un petit coin de ma tête que percer dans le journalisme est un véritable chemin de croix, qu'être comédien est un projet de vie que Belmondo ou Depardieu ont déjà conquis depuis bien longtemps, que devenir Nadal n'a plus de sens à mon âge, etc. Je sais bien ce que vous allez me dire. Oui, cette énumération ne porte que sur des idées singulières, et que oui, l'épanouissement est parfois à portée de main. Mais que faire quand on se sent en panne d'aspiration professionnelle? Que faire quand on se sent perdu finalement? Cette vision un peu sombre et simpliste des choses me semble pourtant être un passage obligé lorsque l'on transite vers le fameux monde du travail. Et puis pourquoi s'interdire de se plaindre ou de déprimer lorsque l'on voit comment le système fonctionne? Au collège, c'est dès la troisième que le système éducatif nous oblige à faire un choix crucial entre les études secondaires ou l'apprentissage. Au lycée, c'est selon l'humeur de nos amis les algorithmes, merci Parcoursup, qu'une destinée universitaire prend plus ou moins forme, ou par l'intermédiaire de concours obligeant une énième fois à bachoter dans son coin. Mais, car oui, un mais arrive, en dépit d'une certaine rationalisation propre à notre société, appréhender l'avenir professionnel, c'est aussi le reflet d'une véritable réflexion. Là où la pression du tout prouver le plus tôt possible fait rage, pourquoi ne pas prendre un peu de recul et en profiter pour penser à ce qui nous plaît vraiment ? Écouter cette petite voix intérieure. Alors c'est là où la notion de sens recèle toute son importance. Se questionner sur le travail que l'on souhaite faire, c'est à la fois cerner les domaines qui nous sont chers, que ce soit l'art, l'artisanat, l'enseignement, l'environnement, la politique, le sport, etc. Mais aussi garder à l'esprit le fait que ces aspirations évolueront sans doute avec le temps ou ne se concrétiseront jamais. Il y a bien sûr des deuils nécessaires à faire. Oui, je ne serai jamais Nadal et oui, je ne serai jamais Belmondo. Enfin, sait-on jamais.
Sait-on jamais.
Petit air de Belmondo.
Oui,
c'est sympa. Finalement, en fait, la quête de sens est infinie et c'est bien cela le principal travail qui nous attend.
Ta réflexion autour de la table de ce jeune homme de 24 ans, Jean-Laurent
Noilin. Je suis pour que, en fait, en France, après le bac, d'accord, vous partez tous un an, hein, qu'on mette ça en place, une espèce de plan de réflexion nationale, tranche d'âge, vous vous barrez tous, on ne veut plus vous voir. Vous partez faire du woofing au Japon, vous partez faire du woofing, c'est ce qu'ils font, je crois, au Danemark.
Le woofing ?
Ah pardon, vous allez vous mettre au service d'une ferme, de quelqu'un qui voilà, et vous êtes logé, nourri et vous apprenez quelque chose avec vos 10 doigts. Donc un an de réflexion avant de s'engager et Parcoursup attendra avant de vous algorithmer la tronche.
Philippe Gabillier.
Oui, je pense que c'est la bonne solution, c'est arrêter de procrastiner pour le coup sur ça et dire bon, c'est pas parce que j'ai fait des études que je dois toujours continuer. Bah, la notion d'année de césure ou d'année sabbatique très précoce peut avoir beaucoup de sens. J'ai des tas d'exemples autour de moi, entre autres étant dans le monde des écoles de commerce, de jeunes, d'amis de mes enfants en particulier, dont mes enfants, qui ont fait l'école de commerce, bon, bof, et ils sont partis pour faire mais radicalement autre chose, et c'est pendant l'année où ils sont partis que tout d'un coup, il y a eu un déclic qui n'avait plus rien à voir, ni avec le business, ni avec le marketing, ni avec rien. Maintenant, ils sont heureux.
Merci beaucoup, Léo Mafiodo. Dans quelques instants, continue à vous donner des conseils pour changer de vie, quel que soit son âge, et pourquoi pas à la retraite, devenir fromager, mécanicien de vieille moto ou torréfacteur.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi sur France Inter.
Semaine spéciale sur France Inter, les retraites, parlons-en. Quelle réforme, quelle place pour le travail, quelle société pour demain? Et ce matin, comment réussir son changement de vie professionnelle? Et nous écoutons une note vocale laissée par Xavier.
Les retraites, parlons-en.
France Inter vous donne la parole.
Bonjour, je m'appelle Xavier, j'ai déjà fait 2 reconversions dans ma vie, c'est presque un mode de vie. Et un point qui me semble très très important aujourd'hui, c'est quand on est dans une situation où on souhaite se reconvertir, c'est de ne pas plonger dans une mécanique compensatoire où on fantasme un changement qui vient juste compenser en fait le mal-être à l'instant T, et c'est de vraiment aller chercher quelque chose qui nous correspond pour de vrai, au-delà de la souffrance du quotidien. Voilà, bonne journée.
C'est intéressant ça, Philippe Gabillier, professeur de psychologie.
Effectivement, ça montre aussi que tôt ou tard, on pourra jamais échappé, on en avait parlé aussi tout à l'heure, au réel. Le réel du froid le matin, le réel du travail difficile, le réel, parfois pour certains, ils disent, oh, mais ça je ferai avec, de la perte d'identité sociale ou de déclassement, parce que c'est bien beau. Alors là aussi, on peut partir à la campagne. Il y a tous les projets où je sors de mon territoire pour aller dans un autre formidable, il y a des gens qui veulent changer de vie en restant à Paris, quoi, en restant en milieu urbain, avec aussi, c'est compliqué de changer de vie si tous les autres autour, eux, ils ne changent pas. Donc voilà, ça en fait partie de cette... De ce travail permanent d'interaction, on se construit dans l'interaction avec les autres tout le temps.
Et nous terminons avec vous, Marie, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, alors racontez-nous votre changement de vie, Marie.
Alors moi, je vais faire vite, j'ai travaillé 10 ans chez un grand cimentier en tant que cadre en production, et puis après mon retour de mon 3e congé maternité, je ne me suis plus du tout sentie à ma place dans cette entreprise, j'étais pas bien, et j'ai suivi des signes, j'étais chez mon fromager qui m'a dit « vous connaissez pas quelqu'un qui voudrait faire une reconversion pour venir travailler en fromagerie ?» Bah, j'ai sauté sur l'occasion, j'aimais le fromage, voilà, j'avais un bon contact client, voilà. Donc j'ai été en formation pendant 1 an, puis j'ai travaillé 1 an CDI dans cette fromagerie. Et puis après, une autre opportunité, je vendais mais je ne fabriquais pas, donc là j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans une ferme pour fabriquer du fromage, là où je suis aujourd'hui, ça va faire 2 ans. Et là, bah, mes enfants grandissants qui m'expliquaient... je me rapproche de l'école, je suis parent d'élève, et puis là, le déclic peut-être qui est venu aujourd'hui, et j'ai passé les concours pour être professeur des écoles, alors j'espère les avoir.
Mais je vous le souhaite.
Ce ce que je peux faire passer comme message, c'est que le plus dur, c'est d'enclencher la première reconversion. Mm-hmm. Moi, c'est vraiment mes enfants qui ont martelé un petit peu, c'est ma vie de famille qui m'a fait prendre conscience de que ça allait pas forcément là où j'étais, ou que j'étais pas en adéquation et pas alignée avec ce que je voulais faire. Et du coup, faire autre chose maintenant, je ne dis pas que c'est plus facile parce qu'il y a toujours des contraintes et il faut peser les pour et les contre, mais c'est plus facile quand on a réussi à enclencher la première étape en fait.
Merci beaucoup Marie d'avoir témoigné. Un mot de conclusion autour de la table, Jean-Laurent Cassely.
Ouais, peut-être pour rebondir justement sur ce témoignage, c'est extrêmement intéressant parce que ce qu'a dit Marie, c'est qu'elle est revenue aux deux aspects, deux dimensions de ce qui est concret dans le travail, la matière, voilà, les produits gastronomiques, le fromage, et puis le relationnel en étant prof et aussi en étant vendeuse. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs voies de reconversion. On n'est pas obligé, on ne va pas tous devenir fromager.
Ni microbrasseur.
Voilà, on ne pourra pas avoir 26 millions de fromagers en France, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est intéressant de rappeler aussi qu'il y a plusieurs voies et qu'il y a aussi des solutions pour les gens qui resteront dans les entreprises dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que derrière ces reconversions spectaculaires de lieu de vie ou de métier, il y a aussi des moyens d'améliorer ces situations à l'intérieur des organisations.
Une poignée de secondes, Laure Noyla.
Oui, qu'on ne se mette pas trop la pression, même s'il y a urgence. Voilà.
Philippe Gabillier.
Comme je pense, moi je crois beaucoup à l'action, j'ai envie de dire à chacun, à chacune, voilà, si vous étiez sûr, mais à 100% que ça va réussir, quelle décision est-ce que vous prendriez dès demain matin? Alors là, comme c'est un cadeau de France Inter, vous avez 8 jours. Voilà.
Merci à toutes et tous. Merci Laure Noyla. Bifurqué par temps incertains, ça vient de sortir chez Tana Édition. Merci beaucoup Jean-Laurent Cassy. La nouvelle édition de La Révolte des premiers de la classe est publiée chez Arquet. Merci Philippe Gabillier. L'art de changer de vie en 5 leçons est disponible aux éditions Saint-Simon. Vous pouvez podcaster et partager cette émission sur l'appli France Inter. Demain, grand bien vous fasse, loisir, plaisir, curiosité, avec la bande du vendredi.